si j'avais des conclusions, je me mettrais debout. Comme je n'ai pas de conclusion, je reste assis. De toute façon, je pense que des conclusions, ce serait à la fois horriblement prétentieux et d'une très grande légèreté. J'ai écouté, j'ai beaucoup appris. Je peux éventuellement faire deux ou trois observations, mais je pense que tout le monde dans la salle ferait les mêmes. Et c'est tout. Je suis content que ça vous amuse. La première chose qui me frappe, et ça je pense que c'est beaucoup à l'initiative de nos hôtes qu'on le doit, je pense que tout le monde l'a perçu comme moi, ce caractère extrêmement précis, et j'allais dire extrêmement sincère, des propos qui ont été tenus. On a vu des praticiens ou des praticiennes s'expliquer sur leur travail de façon à la fois très, très claire et je pense dans beaucoup de cas, peut-être dans la totalité des cas, de manière extrêmement complète, y compris en donnant des chiffres, en donnant des informations qui, certes, sont officiellement disponibles et accessibles, et dont on sait bien qu'elles ne sont en réalité jamais aussi accessibles que cela. Et de ce point de vue, le pari que nous avions engagé tous les trois, je crois qu'on peut dire qu'il a été réussi. On a parlé ici d'exposition, de musée, de manière honnête, de manière claire, sans faire de la communication, ce qui pour moi est un soulagement, évidemment, et en montrant les travaux, leurs difficultés, les compétences qu'ils exigent, les investissements, les retours ou non sur investissement, de façon, encore une fois, très franche. Et je crois que ne serait-ce que pour cette raison, on n'avait pas tort de s'engager dans cette aventure. La deuxième chose qui me paraît, je vais sans doute aller vers, il y aura une sorte de mouvement vers des remarques qui vous paraîtront peut-être à la fin un peu plus éloignées du sujet, peut-être un peu moins consensuelles. Deuxième remarque, mais ça ne m'a pas surpris non plus, surtout s'agissant de l'INP aujourd'hui, c'est la part extrêmement importante, déterminante que la recherche, que les activités scientifiques occupent dans tous les projets qui ont été présentés, y compris dans celui dans lequel j'étais partie prenante et sur lequel vous comprendrez que je ne dise rien ce soir. Que ce soit, ça a été souligné à plusieurs reprises par la présence de scientifiques, d'universitaires, de chercheurs, bon, très bien. Et c'est en soi une chose qui n'est pas radicalement nouvelle, mais qui a pris sans doute beaucoup plus d'ampleur récemment. Mais également, bien sûr, et je crois que de ce point de vue-là, la dernière communication que nous venons d'entendre était parfaitement exemplaire, à tous les sens du terme, par le degré de savoir, et de savoir avec un S, que sont susceptibles de mettre en jeu ceux qui sont des réels spécialistes des domaines, des techniques qui sont nécessaires pour mener à bien de telles opérations. Donc la recherche, c'est évidemment travailler avec des chercheurs entre guillemets patentés, encore que je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais c'est évidemment dans l'enseignement et dans la formation des conservateurs aux disciplines de l'archéologie et de l'histoire de l'art que ça se joue d'abord. Cela d'ailleurs, remarque entre parenthèses, pourrait sans doute se jouer dans les deux sens. Je veux dire de la recherche vers le monde des musées, mais également du monde des musées vers celui de la recherche, Je voulais rassurer, mais je ne sais pas si elle est encore parmi nous tout à l'heure, la jeune femme impétueuse, mais c'est un compliment, de la Cité internationale de l'immigration, en lui précisant que même des universitaires savent ce que c'est qu'un marché public et que nous ne sommes pas, parce qu'universitaires, complètement extérieurs à la réalité de notre époque. Et d'autre part, regretter dans ma situation d'universitaire que des rencontres comme celle-ci, si elles ont visiblement abondamment mobilisé du côté des musées, n'aient pas rencontré le même intérêt de la part d'institutions, y compris habitant cette maison, dont l'histoire de l'art et la recherche sont censées être l'activité principale. Je crois que là, il y a une question de réciprocité qui devrait être posée aux principaux intéressés. Fin de la parenthèse. Ensuite, sur les questions intellectuelles de méthode que vous avez posées. Bon, sur beaucoup d'entre elles, moi, je n'ai rien à dire. Je ne vais pas faire semblant d'être compétent dans des questions sur lesquelles je ne suis que dans une position de spectateur. Alors, peut-être que je vois plus d'expositions et plus de musées que la moyenne de nos concitoyens, mais c'est tout. Donc, encore une fois, je n'ai pas d'avis, à plus forte raison, je n'ai pas de solution. Ce que j'ai constaté, à l'inverse, je voudrais faire finalement trois remarques qui m'ont beaucoup frappé dans les débats. La première, qui a d'ailleurs été soulevée ce matin par une conservatrice qui, semble-t-il, était dans le sud de la France, je ne sais pas si c'était Valence, qui a posé la question du beau. Alors, et à plusieurs reprises, dans les questions qui ont été posées, esthétique, esthétisé, esthétisation sont des termes qui ont été prononcés. Ça m'a surpris, j'avoue. D'abord parce que les historiens de l'art, enfin en tout cas les contemporanéistes, n'emploient pour ainsi dire jamais le terme beau, et dans la critique à plus forte raison. Et donc le retour de ce registre de langue, de vocabulaire, était un peu inattendu. Mais je ne suis pas sûr qu'on gagne grand-chose à poser la question en termes de beau. Et à un moment, je crois que c'était vous, madame, avez employé le terme « empathie ». Et il me semble que, en effet, penser ou s'interroger sur le pouvoir des objets dans les termes de leur empathie est peut-être, au fond, plus utile, fonctionnera mieux qu'en termes de beau. Vous avez dit tout à l'heure à propos du maillet, c'était un maillet, hein, que ce n'était pas comme un Caravage, mais qu'au fond, ça avait autant d'intérêt qu'un Caravage, et que ça avait autant d'intérêt qu'une page d'archives de 1960. Bon, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Et on pourrait multiplier les exemples et aller du très pauvre objet au très riche objet d'art en soutenant qu'ils ont des intérêts évidemment différents, mais égaux. Mais ce n'est évidemment pas avec des notions comme beauté qu'on pourra penser cela. Je disais à Gennaro à un moment, relire Walter Benjamin, penser plutôt dans des termes d'aura que dans des termes de beauté ou d'esthétisation. Ce que vous faites et ce que d'autres seront appelés à faire, c'est juste rendre manifeste l'aura des objets que vous avez à montrer. Alors, d'accord, dans certains cas, c'est très facile. Quand vous avez un buste de César, ça tombe sous le sens, ce qui n'est pas, évidemment pas diminuer votre mérite que de dire cela. Mais tous ces objets ont une charge symbolique, ont une charge historique, ont une charge intellectuelle. Et j'ai presque envie de dire, il suffit de la rendre manifeste sans avoir, dans beaucoup de cas, probablement besoin d'en faire beaucoup pour que le visiteur y soit sensible. Ils peuvent avoir une charge, parce qu'ils sont d'une très haute antiquité, une très grande ancienneté, ils peuvent avoir une charge parce qu'ils touchent, à l'inverse, à des choses très contemporaines de notre vie ou de la vie des générations qui ont immédiatement précédé les nôtres. Je pense à ce qui a été dit sur les immigrés pendant la guerre d'Algérie ou la mémoire de l'exil des Harkis en 1962. Mais dans tous les cas, il y a un rapport qui s'établit entre le visiteur et l'objet. Et tout ce que nous avons à faire, c'est juste de le faciliter, rien de plus. Mais esthétiser, non, ce n'est pas nécessaire. D'abord, on n'esthétisera pas un Caravage, c'est clair. Mais le maillet du calfateur romain du temps de Néron, il n'a, au fond, besoin de rien. Il suffit de dire que c'est le maillet d'un calfateur du temps de Néron pour que ça fonctionne. Parce qu'on sait ce que cela signifie, plus ou moins. On comprend les résonances que cet objet, dans son ancienneté, dans sa matérialité, dans sa valeur d'usage, a comme inscrit en lui. Donc, peut-être que là-dessus, la plus grande discrétion peut être une solution. Contradictoirement avec ce que je viens de dire là, une autre chose m'a beaucoup frappé, c'est ce que vous avez presque tous dit, les difficultés de donner à lire, le problème de l'écrit, le problème du texte, et la nécessité de visualiser. Il faut qu'il y ait des images. Il faut toujours que ça fasse image. Alors, d'une part, ce sera la seule remarque d'historien, plutôt connaissant le début du XXe siècle, que je puisse me permettre, c'est pas nouveau du tout. Les moyens sont nouveaux, mais la nécessité, ou le besoin plus exactement, de visualiser le passé, c'est totalement banal. Évidemment, quand on faisait ça vers 1900, avec des mannequins habillés de peau de bête, je connais mieux la préhistoire, au musée de l'armée. Ça nous paraît aujourd'hui un peu ridicule. Mais ça correspondait, ça satisfaisait ce même besoin du visiteur d'avoir une sorte d'aide à l'imagination pour se faire, non pas une idée, mais se faire une image. Et vous, monsieur, vous avez commencé votre exposé sur l'exposition gauloise avec un tableau. Ce tableau est un tableau d'un peintre pompier de la fin du XIXe siècle que je connais fort bien parce qu'il a peint des scènes préhistoriques. Il s'appelle Paul Jamin. Et votre tableau s'appelle le butin du Brenne. Bon. Y a-t-il, je vais vous agacer, mais y a-t-il une différence fondamentale entre ce tableau et le petit film que vous avez montré à la fin? Vous êtes toujours dans la représentation, vous êtes toujours dans la visualisation, vous êtes toujours dans la satisfaction d'un besoin, qui certes est réel, du visiteur, qu'on lui donne à voir. Bon, ça a l'air d'être une sorte de constante de la question de l'exposition et de la question du musée du 19e au 21e siècle. Et vous avez dit très justement, ou non, c'était l'archéologue qui a dit, de toute façon, c'est une fiction d'aujourd'hui, et dans 20 ans, on devra peut-être refaire une nouvelle fiction, refaire de nouvelles images, parce que des découvertes auront déplacé nos connaissances. Bon. Donc, on fait des images parce qu'il y a un appel à en faire, et on les fait en sachant qu'elles sont éphémères. Ils sont à certains égards critiquables et que sans doute d'autres s'y substitueront. Le seul point qui me trouble par rapport à cela, c'est que ce besoin de visualisation, pour dire la chose brutalement, il ne faudrait pas tout de même que l'exposition ou le musée se coule entièrement dans le modèle de la communication spectaculaire qui est celle du monde contemporain, qu'il y ait des images, ou sans doute en faut-il, simplement nous en sommes saturés d'images. Nous vivons dans les images, et beaucoup vivent des images. Et donc, peut-être est-ce un regret, une forme de pensée rétrograde, mais je n'arrive pas à me débarrasser totalement de la conviction que de l'écrit, quelquefois, c'est tout de même un autre temps, un autre type de rapport au savoir que celui de l'image, de la projection imagée, par conséquent nécessairement contestable, d'un savoir historique. Alors, vous êtes tous d'accord pour dire, si on met trop de textes, les gens ne les lisent plus. Sans doute. Peut-être faut-il quand même ne pas totalement renoncer à en mettre. Et peut-être ne pas totalement renoncer quelquefois à être même un peu difficile dans certains énoncés. Afin que d'une part le savoir ne se trouve pas excessivement simplifié et que le visiteur ne soit pas un simple consommateur d'images. Parce que ces images consommées sont souvent aussi des images vite oubliées. Peut-être t'y penser. Et puis alors, troisième point, mais là je sors totalement du sujet, c'est que ben, c'est peut-être dû au choix des expositions que nous avions fait pour l'année 2012. C'était presque toutes des initiatives hors de Paris, puisque finalement nous n'avons parlé que de deux expositions qui avaient lieu à Paris, celle de Bertrand Lavier au Centre Pompidou, mais c'était parce que nous souhaitions aborder le cas d'un artiste vivant et avoir son témoignage, et l'exposition sur l'immigration à la Porte Dorée. Oui, bon. C'est pas tout à fait pareil tout de même. C'est d'ailleurs une exposition qui était plutôt faite pour l'itinérance, si j'ai bien compris. Mais oui, c'est Paris. C'est pas du tout ça la question. La question, c'est que, somme toute, on a parlé essentiellement, et ça vaut aussi bien pour vous, d'initiatives, j'allais dire, presque personnelles, particulières, dans des lieux spécifiques, à Arles, à Marseille, à Montpellier et Toulouse, parce que sinon vous allez croire que décidément j'ignore tout de la géographie de la France, qui, si j'ai bien compris, naissent de la volonté de quelques personnes, s'efforcent de trouver un écho, ou en tout cas de ne pas se voir opposer de refus de la part des politiques locaux, et s'accomplissent avec du succès, ou un certain succès. C'est très bien. Ça veut juste dire que dans l'état actuel de la France, il n'y a pas, peut-être ne faut-il pas qu'il y en ait, mais dans ce cas-là, il faut le dire, il n'y a pas de politique culturelle organisée, réfléchie à l'échelle nationale. Ça veut dire que la politique culturelle, elle est le fait d'initiatives séparées, qui peuvent être excellentes, mais que j'ai pas le sentiment qu'aucun d'entre vous n'ait éprouvé, et c'était sans doute parfaitement normal, le besoin, à un moment ou à un autre, d'inscrire votre action dans une vision générale. Alors, vous n'y êtes évidemment pour rien, mais ça peut vouloir dire, à l'inverse, qu'il y a, à un certain niveau, un déficit d'interlocuteur ou un déficit d'intérêt ou un déficit de volonté politique de s'emparer des questions culturelles pour essayer d'y réfléchir, d'en dire ou d'en penser quelque chose. Vous avez appelé votre bateau, votre deuxième bateau, l'André Malraux. C'est bien le cas. votre bateau de fouille, il s'appelle l'André Malraux, vous nous avez dit.
Oui, c'est l'André Malraux.
Bon, ben, voilà, André Malraux, aujourd'hui, c'est un bateau, c'est le nom d'un bateau. Mais André Malraux, il y a 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans même, c'était une politique culturelle. Moi, je n'en tire aucune espèce de conclusion. Encore une fois, j'observe que les termes dans lesquels on parle aujourd'hui de la politique des expositions en France sont sans doute profondément différents de ceux dans lesquels on en aurait parlé il y a 50 ans et même probablement dans une période encore plus récente. Ensuite, c'est à chacun d'entre vous de tirer les conséquences de ces quelques observations. Merci à Gennaro et à Eric d'avoir permis à ces rencontres d'avoir lieu. Merci à ceux qui ont participé avec beaucoup d'engagement et à tous ceux qui y ont assisté.